Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G, qui adorait les films scientifiques et fantastiques qui confèrent un certain pouvoir mortifère à un génie, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un manoir cossu des Carpates, en plein orage. Le tonnerre gronde à l'extérieur. Francis Drake attend l'arrivée de certains invités pendant que son mari, Boris Karloff, est dans son observatoire à mettre au point les derniers détails à un télescope géant de son invention pour observer la nébuleuse d'Andromède et surtout pour capter des images du passé. Né d'un père scientifique qui a perdu la vie lors d'une expérience similaire et d'une mère qui, elle, y a perdu la vue, il est considéré par la communauté scientifique comme un charlatan. Mais tout ça va changer. Le rayon invisible de Lambert et Lillier, c'est maintenant.
To reproduce what is written upon the beam from Andromeda, we must travel out into space upon that ray of light, until we reach a point at which we turn and look back upon our own planet. We approach the moon, dead ashes where there is no air or water, in the shadows colder than our Arctic, in the sunlight hotter than any desert of the earth. Saturn we pass with its twirling rings, a vast cloud of tiny moonlets. Each moving in its own orbit.
Le film est tourné en 1936. Boris Karloff est une star inconditionnelle du grand écran. Et ici, les producteurs entretiennent la flamme de sa rivalité avec Bela Lugosi. Alors, on est loin du mythe de Dracula malgré les Carpates. En revanche, on est bien plus près de celui du savant fou, comme ce sera le cas avec Vendredi 13 d'Arthur Lubin sur un scénario de Kurt Siodmak. Ce film-là sortira 4 ans plus tard. Et il continuera d'explorer la relation traumatique entre le scientifique et ses travaux. Et toujours avec Boris Karloff et Bela Lugosi. Ici, les deux hommes ne revêtissent pas leur apparat fantastique. Ils ont des costumes de bourgeois et apparaîtraient presque comme normaux. Karloff, c'est le scientifique au nid. Il est intuitif et asocial. Tout ce que peut rejeter une communauté scientifique arc-boutée autour de Bela Lugosi. Lui, c'est la science raisonnable. C'est un docteur. Son but semble tourner vers l'humanisme, mais on peut également déceler ce qui les oppose tous les deux, l'argent. Dans un certain sens, Karloff est généreux et Lugosi pragmatique. Pour l'heure, Francis Drake, la même que dans Les Mains d'Orlac, aux côtés de Peter Lorre, une année auparavant, femme de Boris Karloff, va ouvrir la porte à ses invités et les conduire à l'observatoire. On va alors avoir affaire à une conférence de Karloff pendant que son télescope envoie un signal vers Andromède où tout ou partie de l'univers a commencé. Surtout, il va apporter la preuve irréfutable, en remontant le temps par un tour de passe-passe scientifique, qu'un météorite s'est écrasé sur le continent africain des milliers d'années auparavant et que de son explosion a résulté un gisement radioactif 1000 fois plus important que ce que le radium peut faire. Tout ça à partir d'un télescope. C'est fou quand on y pense, mais c'est Boris Karloff. Les deux scientifiques entreprennent donc une mission pour l'Afrique, malgré la vieille mère aveugle de Boris Karloff, pour qui la place de son fils asocial est à la maison, au milieu des Carpates et de son laboratoire, et pas des gens. Mais tout ce petit monde part, et parmi eux, un jeune homme propre sur lui, qui est tombé amoureux de Francis Drake, ce qu'on peut comprendre. Il faut bien comprendre maintenant que le film est tourné en 1936. Les séquences en Afrique sont un mélange de colonialisme et d'exotisme. Certains découvrent qu'il fait chaud et qu'on s'ennuie. D'autres partent chasser au son des tambours. Boris Karloff, lui, part à la découverte de son gisement. Affublé d'un casque digne d'un ouvrier soudeur et d'une combinaison dans laquelle il doit beaucoup transpirer, il est descendu par un treuil le long d'une paroi et pour un peu, on se croirait dans Voyage au centre de la Terre, puis dans Le voyage de la Lune de Méliès.
Janosch.
What are you doing here? You must go away at once. At once, do you hear?
But it's Diana.
You shouldn't have come. I wrote you I had important work to do. I don't want to be bothered with anyone.
Oh, you must be ill. What's happened to you?
Nothing's happened to me. What makes you think anything's happened to me?
It's been weeks since you left. Don't you want to see me?
I don't want to see you here. This is no place for you. You must leave here at once.
Le scientifique découvre ce qu'il était venu chercher. Et là, c'est la stupeur, du moins chez le spectateur, parce que le minerai hautement radioactif peut servir de combustible à une arme de son cru, qu'il a donc apporté sans savoir si ça fonctionnerait. Mais là, ça fonctionne très bien au point de faire fondre la roche. Seul petit problème, Karloff a été irradié et porte la mort sur lui. Il est devenu phosphorescent, ce qui ne se voit que la nuit. Affolé, il demande à sa femme de partir et de l'aide à Lugosi, qui nous sort un chélateur anti-radium à base de zitylium. Seulement voilà, si Karloff tue maintenant tout ce qu'il touche, ce chélateur pris quotidiennement pourra lui donner un semblant de vie, mais... Et oui, il y a un mais. Ce que les deux scientifiques n'ont pas perçu, c'est que l'irradiation a transformé mentalement son découvreur. Elle le rend plus mauvais. Et comme sa femme s'est fait la malle avec le jeune homme de l'équipe, comme Lugosi a fait main basse sur sa découverte pour la mettre au service du bien, à savoir permettre à des aveugles de retrouver la vue, Karloff va mettre au point sa vengeance et décider d'éliminer un à un les 6 membres de l'expédition. Sa chute n'en sera que plus terrible.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Eh bien Alice, sous la jupe de ce film, il y a encore et encore le mythe d'Icare avec un savant obnubilé par ses recherches qui en perd toute humanité et qui devient, allégoriquement parlant, dépassé par sa créature. C'est le cas de Frankenstein que Karloff a usé jusqu'à la corde. C'est le cas du docteur Janos Ruck. Le choix de son prénom n'est pas dû au hasard, mais à une interprétation sûrement faussée, voire fallacieuse, de son homonymie avec Janus. En hongrois, c'est simplement la transposition de notre prénom Jean. Mais si on s'intéresse de près à Janus, le dieu de la transition, celui qui, étymologiquement parlant, se rapporte à la porte, on peut y voir une autre signification, celle de l'ouverture de la boîte de Pandore. On le sait, les voies de la science sont au moins aussi diaboliquement impénétrables que toutes les autres. Et Karloff, il l'oubliera avant que sa mère se charge de lui rappeler. Le rayon invisible de Lambert Hillier, c'est un film fantastique, scientifique, avec deux monstres sacrés du genre qui s'affrontent. Et c'est en DVD chez Elephant Film. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.
Bye, Rick.